à bâton rompu. À bâton rompu, une émission proposée par Bruno Cyr.
Chers auditeurs, bonjour. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Madame Lucie Sorza.
Bonjour.
Lucie Sorza, bonjour. Lucie Sorza, vous êtes maître de conférences en droit public à l'Université de Toulouse Capitole. Et parmi vos activités de recherche, vous avez en charge d'organiser des conférences dans un institut de recherche international qui s'appelle l'IRSI. Et c'est à ce titre que je vous ai demandé de venir, parce que pour la deuxième fois, vous étiez déjà venu l'année dernière. L'année dernière, vous aviez organisé une très grosse conférence passionnante à laquelle j'avais pu assister d'ailleurs, qui était sur la fin de vie, la loi sur la fin de vie et sur le principe d'euthanasie ou d'aide à mourir. Donc ça avait donné lieu à plusieurs entretiens avec vous pour que vous nous disiez les différents points de vue, puisque la caractéristique de ces conférences, c'est qu'elles sont pluridisciplinaires. Il n'y a pas un seul point de vue qui est abordé. Et cette année, vous venez d'organiser, ça a eu lieu il y a 15 jours.
Tout à fait.
Vous venez d'organiser une conférence sur le prix de la vie. Elle s'intitulait « La vie a-t-elle un prix ?» Le prix de la vie. Alors, c'est une question qui, notamment pour des gens qui partagent une foi dans un au-delà, le prix de la vie, c'est une vraie question. Quel est l'arrière-plan ? Expliquez-nous pourquoi, comment, c'est quoi votre projet ?
Alors, tout d'abord, permettez-moi de présenter très rapidement cet institut de recherche qui est tout nouveau, hein, l'International Research of Society Institute, l'IRSI, qui donc a pour but de répondre aux grands enjeux sociétaux. Et ce, à travers un décloisonnement de la recherche académique. Donc l'objectif, c'est de créer, de monter des projets interdisciplinaires, intersciences et internationaux. Et dans le cadre de ces projets, eh bien, il y a ces fameux cycles de conférences dont je suis chargée, pardonnez-moi, de développer. La question suivante, c'est-à-dire la vie a-t-elle un prix, était un sujet tout d'abord qui nous semblait au cœur des préoccupations de la société actuelle, mais aussi qui avait cette possibilité d'ouvrir les champs disciplinaires et de traverser donc les différentes sciences qui peuvent toucher potentiellement à ce sujet. Donc la question du prix de la vie, il est vrai qu'au premier abord, on peut être tenté d'avoir une approche strictement économique.
Oui, on pourrait d'abord être tenté de dire la vie n'a pas de prix.
Oui, mais c'est vrai.
Mais une fois qu'on a dit ça, en fait, on se rend très vite compte que si, la vie a un prix, et que donc il y a des gens qui expriment ce prix de façon très concrète. Alors, vous me disiez, les économistes, allez-y.
Tout à fait. Au premier abord, on peut être tenté d'abord de répondre par l'aspect strictement économique.
Oui, les assureurs, par exemple.
Voilà, par exemple. Mais aussi, on peut dépasser cet aspect-là et se questionner sur le prix aussi moral, la valeur morale, la valeur éthique de cette vie à travers différents questionnements qui ne touche pas uniquement à l'aspect économique. Et l'ADN de cette conférence a été justement d'essayer de répondre à cette question sur plusieurs aspects, l'aspect juridique, mais aussi l'aspect anthropologique, l'aspect humanitaire, et qui est lié d'ailleurs à des questions médicales, mais aussi, bien évidemment, nous n'avons pas occulté pour autant l'aspect économique, puisque nous avons eu aussi un économiste qui a tenter de répondre à cette question avec nous tous.
Et alors, la caractéristique des scientifiques, c'est que, en général, chacun dans son domaine creuse un sillon, hein, pour parler de façon imagée, mais ça traduit bien l'activité de recherche, c'est-à-dire qu'essaye de déblayer un champ de connaissances et puis choisit un sujet, approfondit ce sujet, creuse un sillon. Mais le revers de la médaille de cette approche scientifique, qui est indispensable, on ne peut pas faire autrement, c'est que ça devient très difficile de communiquer entre scientifiques qui sont dans des champs différents, avec des sillons profonds, très éloignés souvent les uns des autres. Donc ça communiquait bien ?
Eh bien tout à fait. Ça a vraiment été un succès pour tout cela, puisqu'on a réussi à faire un lien entre les différentes positions de nos différents intervenants, qui sont donc Madame Katerina Genzi, qui était anthropologue, Monsieur Pierre Dubois, professeur d'économie, et Monsieur Ronny Broman, grand humanitaire, mais aussi médecin.
Qui a été président de Médecins Sans Frontières.
Tout à fait.
Quelqu'un qui est très impliqué dans l'approche un peu au-delà de sa simple exercice de sa profession. Ouais.
Tout à fait. Et si les trois points de vue étaient tous axés sur des aspects bien différents, en réalité, nous avons pu identifier ce fil rouge entre les différentes postures cela a fait ressortir notamment une idée de hiérarchisation de la valeur de la vie. C'est-à-dire une vie qui n'est pas forcément évalué de la même façon en fonction des circonstances, en fonction des théories, en fonction des représentations, en fonction des contextes. Voilà, et ça c'est quelque chose qui a vraiment émergé de cette conférence.
Donc, en quelque sorte, ce que vous me dites, c'est qu'il n'y a pas un prix, oui, mais il y a différentes valeurs qui peuvent être données à la vie.
Tout à fait.
Selon le point de vue, le contexte dans lequel on est.
Tout
c'est
à
ça
fait, tout à fait, tout à fait. C'est vraiment ce qui est ressorti des interventions de nos spécialistes sur cette question, c'est-à-dire plusieurs approches de la valeur de la vie en fonction de plusieurs facteurs.
Mais alors, c'est évidemment. On peut penser à des périodes un peu noires de notre histoire, des périodes de guerre ou des périodes de grandes épidémies, etc., où effectivement on avait le sentiment peut-être que la vie valait pas grand-chose, oui, entre guillemets. Donc ça veut dire que d'un point de vue moral, éthique, il y a des moments où on peut se dire la vie a moins de valeur que d'autres périodes ?
Eh bien oui, c'est à peu près ce qui est ressorti de cette conférence. Alors je prendrai l'exemple par exemple de l'intervention de Monsieur Broman, qui en sa qualité d'humanitaire avait une position d'observateur sur ce qu'il a pu voir tout au long de sa carrière. Et ce dernier a notamment mis en exergue la forte emprise de l'index émotionnel. C'est-à-dire qu'en fonction des situations et en fonction de la proximité que nous pouvons avoir vis-à-vis de ces situations, eh bien, nous n'avons pas forcément la même appréciation de la valeur de la vie. Alors ce dernier a évoqué notamment la question des zones de guerre, mais aussi des catastrophes naturelles. Voilà, donc, c'est-à-dire qu'en fonction de tel ou tel événement qui se passe dans le monde, eh bien, nous-mêmes, nous n'aurons pas forcément la même réaction et nous n'aurons pas forcément la même approche de la valeur de la vie. Je me permettrai aussi de citer le professeur Pierre Dubois qui est économiste exactement à la TSE et qui de son côté nous a parlé du concept de la valeur statistique de la vie. Alors la valeur statistique c'est une théorie économique qui évoque le fait que en fonction d'une vie qui est identifiée ou une vie anonyme, nous n'aurons pas forcément la même approche quant à la valeur de la vie. Ce dernier a évoqué par exemple le cas des collectes de fonds. Une collecte de fonds qui sera lancée pour sauver la vie d'une personne bien identifiée, n'aura pas forcément le même résultat qu'une collecte de fonds pour traiter une
personne plus anonyme.
Oui, voilà, pour traiter des individus anonymes.
Et donc à partir de là, on peut considérer qu'au fond c'est un reflet de la valeur qu'on accorde à la vie de la personne.
Voilà, c'est ça.
Qui est différent.
Exactement. Et quant à Madame Genzi, qui est anthropologue, cette dernière a axé son propos sur l'Inde. L'Inde classique, mais aussi l'Inde contemporaine. Et elle nous a donné des exemples absolument éclatants d'une approche différente de la valeur de la vie en fonction des représentations dans le brahmanisme, dans l'hindouisme, en fonction des représentations, et bien en fonction aussi des critères, pas que des représentations, et bien l'appréciation de la vie est différente. Alors je m'explique, dans le brahmanisme, cette dernière nous a expliqué que la personne, l'être humain, naît avec des dettes, mais des dettes au sens économique du terme, et cette dette va devoir être soldée tout au long de la vie. Et pour solder cette dette, et bien il va y avoir différentes stratégies, et par exemple ils vont utiliser l'horoscope. C'est-à-dire que si on voit qu'une personne va dans son horoscope, eh bien, un jour engendrer trois garçons, trois fils, eh bien, cette personne aura plus de valeur, voyez, que une autre personne qui n'engendrera pas de fils.
Ah ouais, ça, c'est une drôle de... Et donc, ils font confiance à l'horoscope.
Exactement.
Mais l'horoscope, c'est quand même pas une science exacte, donc c'est très aléatoire.
Oui, bien sûr. Mais alors, ça, c'est la culture brahmanique et hindoue. Mais aussi, ça peut être en fonction de critères, en fonction du sexe ou des castes.
Oui. Ça me fait penser à une chose, c'est à l'époque des Romains, les gladiateurs qui disaient « moriturit et salutante », la vie n'avait pas beaucoup de valeur pour les gens qui regardaient ces pauvres gladiateurs en train de qui eux arrivaient devant l'empereur en disant on va mourir, enfin un de nous deux va mourir. On avait l'impression que c'était un jeu, quoi. Ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça serait des spectacles totalement insupportables et qu'en fonction des époques, la vie, on a l'impression, a changé beaucoup d'approche, d'appréciation sur sa valeur. Eh bien, écoutez, Lucie Sursin, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur les fondements. On reprendra notre discussion, si vous en êtes d'accord, pour approfondir cette question quand même essentielle en philosophie. Quelle est la valeur, quel est le prix de la vie ? Merci.
Merci beaucoup.